Sophie Malibaud, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. À la fin de la semaine, les 27 se sont accordés en sommet européen sur le futur budget de l'Union européenne et sur des ambitions climatiques rehaussées. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui la Portugaise en charge à Bruxelles des fameux fonds de cohésion qui sont censés rééquilibrer les richesses entre les régions d'Europe. Elisa Ferreira, bonjour, merci d'être avec nous en duplex.
Bonjour Elisa Ferreira. Alors vous avez commencé par enseigner l'économie avant de devenir ministre de l'environnement dans le gouvernement socialiste d'Antonio Guterres. Vous êtes aussi occupée du développement régional dans les années 90 et puis votre carrière s'est orientée vers l'Europe et plus précisément vers le Parlement européen puisque vous y avez été élue 3 fois entre 2004 et 2014. Vous êtes maintenant commissaire européenne à un moment où votre pays, le Portugal, va prendre la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Ce sera à partir du 1er janvier.
Alors, deal, c'est le tweet victorieux du président du Conseil européen à propos du déblocage très attendu du plan de relance et du budget à long terme de l'Union. La Pologne et la Hongrie ont finalement levé leur veto. Est-ce que cela veut dire qu'ils acceptent désormais que l'allocation des fonds européens soit subordonnée au bon respect de l'état de droit ?
Merci de votre intérêt. Oui, c'est un moment exceptionnel de la vie de l'Union européenne. C'est le rattrapage du développement d'un futur qu'on ne veut pas en sortant d'une pandémie qui a causé si de problèmes en termes économiques et en termes de santé publique et de pertes pour les citoyens. On veut appuyer, et la Commission était très très, je crois, courageuse en avant proposé un relancement qui est un relancement qui ne reproduit pas le passé, doit être un relancement vert, un relancement digital et un relancement qui touche les gens et qui ne laisse personne en arrière. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Et le déblocage au niveau du Conseil, c'est absolument fondamental pour que ça puisse être réalisé le plus vite possible, parce que nous avons besoin vraiment d'un relancement de l'économie qui rattrape tous les gens, toutes les régions, tous les niveaux sociaux. Et c'est ça que les citoyens attendent de l'Europe. Et cette fois, je crois qu'on l'a fait. Alors, il faut démarrer.
Elisa Ferreira, pour revenir sur le motif de la levée de ce veto des Polonais et des Hongrois, il faut dire que vos fonds de cohésion, ils représentent un enjeu majeur sur le plan économique. 4% de leur PIB, est-ce que c'est ça qui les a fait bouger parce qu'ils avaient peur simplement qu'on leur coupe les vivres?
Je crois que c'est une façon de regarder le problème, mais je crois que c'est quelque chose de plus fondamental. L'Europe, c'est une Europe économique, mais c'est une Europe de principes et de valeurs. Alors, quand on décide de joindre l'Union européenne, il y a des principes qu'on doit suivre. Et ces principes sont les principes de démocratie, d'égalité entre les gens, de n'avoir pas la possibilité de discriminer contre les gens selon, par exemple, leurs options de vie ou les options en termes de genre. Ça n'est pas acceptable au niveau européen. Aussi, pour le budget européen, il est rempli avec les contributions des Européens. Alors, il faut avoir une certitude totale qu'ils sont distribués aux gens qui ont besoin de ça et pas aux gens qui ont le pouvoir pour retenir et pour leur bénéfice individuel les fonds qui sont destinés à appuyer les petites et moyennes entreprises, à donner plus de compétences aux travailleurs. C'est ça l'objectif. Alors, s'il n'y a pas une situation suffisamment transparente et suffisamment confiable au niveau de la justice, au niveau de la distribution des fonds, ça ne peut pas marcher. Alors, Alors, je crois que c'est plutôt une acceptation qu'il n'y a pas d'abus sur le niveau qui reste de souveraineté des différents pays. C'est quelque chose de reconnaître que pour être ensemble, on doit avoir des principes qui sont partagés par tout le monde. Et cette acceptation que je crois, qui quelquefois subit différentes interprétations au départ, mais ça c'est une condition fondamentale et je crois que c'est important qu'on rappelle ça quand on commence une nouvelle période de fonds structurels qui vraiment doivent être complètement sans doute pour tous les citoyens que ces principes-là ils sont suivis et ils existent et ils se maintiennent.
Mais justement, la Pologne et la Hongrie, ils ont encore la possibilité de saisir la Cour européenne de justice pour contester ce mécanisme liant l'attribution des fonds à l'état de droit, ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire d'ailleurs. Et est-ce que Viktor Orban va réussir à échapper aux sanctions financières avant une date très importante pour lui, les élections législatives de 2022, où il pourrait perdre parce que l'opposition est unie?
Alors c'est un sujet qui est dans le cadre des règles et des aussi l'Union européenne suit et doit suivre des règles de l'état de droit et l'état de droit veut dire qu'il y a toute une quantité de procédures qu'on doit respecter quand on a des suspicions ou des problèmes et c'est ça qu'on fait au niveau de la Commission européenne aussi on suit et on poursuit toutes les transitions qu'on doit faire pour appliquer l'état de droit. Et c'est ça qu'on fait. Alors, il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas présenter dans une façon légère ou superficielle. Ça veut dire seulement que nous sommes tous attentifs à que l'état de droit soit respecté aussi au niveau des institutions européennes, mais aussi au niveau des États. Alors, c'est un sujet qui est devenu très visible, très important.
Elisa Ferreira, dites-moi. En fait, des enquêtes ont été faites par l'OLAF, l'Office européen de lutte contre la fraude, et on sait très bien que des fonds ont été détournés en Hongrie pour aller dans la poche des proches de Viktor Orban. Et l'Union européenne demande que ces fonds soient remboursés, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas. 44 millions d'euros de subventions, est-ce que ça veut dire que les Européens passent l'éponge sur cette ardoise?
Non, pas du tout. Comme je vous ai dit, il y a une procédure et cette procédure se passe dans plusieurs pays. Vous mentionnez un cas très spécifique, mais il y en a d'autres. Et il y a toutes les procédures qui sont suivies au niveau de la Commission européenne et ça inclut une audition, une confirmation des faits. Et bien sûr, il y a le remboursement si la situation n'est pas une situation légale et si l'argent a été versé sans que toutes les procédures de transparence et de conformité totale avec la législation européenne n'étaient pas éprouvées. Qu'elle n'était pas suivie. Alors, dans ce cas-là, et il y a pas mal de cas, vous parlez des cas un peu évidents, mais il y en a d'autres, il y a toujours le remboursement de la Commission européenne pour le budget. Mais pour qu'on arrive finalement à ce stade-là, on doit écouter, avoir la preuve, la contre-preuve, parce que c'est aussi ça, l'état de droit.
Alors Elisa Ferreira, pour illustrer ce que représentent les fonds structurels, à la fois fonds de cohésion, fonds pour l'emploi, nous vous proposons de partir en Belgique pour un reportage auprès d'une association belge qui a perçu 35 000 euros par an depuis 2016, une association de développement durable dans l'agriculture dont notre correspondante Alix Le Bourdon a rencontré la coordinatrice à Liège, Françoise Vandalem. On l'écoute au milieu de ses salades.
La Mourache, c'est une association qui a pour mission de former des demandeurs d'emploi en leur apprenant le métier de maraîcher biologique et celui de jardinier écologique. Alors, les légumes qu'on produit, ils sont destinés à la vente aux particuliers. On fait les récoltes de manière hebdomadaire et on va faire des paniers de légumes. Donc ce sont des assortiments de légumes bio, de saison, et on va le livrer chez eux.
Moi, c'est Épicerie du Nord.
Ah, nickel.
Moi, c'est Olivier. Ah, donc ici, je suis stagiaire à La Mourache. Et il en manque encore deux, je pense.
Oui.
C'était important vraiment d'avoir cette démarche écologique. Pouvoir prendre conscience de l'importance que ça a de pouvoir produire local et vendre local. Il faut faire avancer les choses par rapport à tout ça et vendre la qualité aussi.
Le projet que nous avons mis en place a reçu, je pense, le soutien du Fonds social européen de par le côté vraiment insertion d'un public très éloigné de l'emploi. Grâce au FSE, on a pu accueillir 60 jeunes supplémentaires. Malheureusement, dans notre cas, nous avons appris que ce projet ne pourrait pas être maintenu au-delà de 2020. Ce que j'aurais envie de dire à Madame la Commissaire, c'est que on est dans un moment où l'Europe prend des directions très claires avec le Green Deal. Nous, on a les moyens de le faire, on a l'équipe, on a la connaissance et l'envie de poursuivre le projet. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que ce projet perdure ?
Réponse, Madame la Commissaire Ferreira, sur la continuité de ces fonds structurels.
Je suis ravie de voir que vous avez trouvé vous avez pris la décision de montrer des projets très positifs d'insertion sociale et de travail et de progrès. Et je voudrais, en relation encore à votre dernière question, vous ajouter que quand on a des situations de fraude avec les fonds structurels, c'est pas admissible du tout, mais ce cas-là, ils sont moins de 1% en termes statistiques, en termes quantitatifs, ils sont moins d'un pour cent de la totalité des fonds qu'on gère. Et on a en fait une quantité énorme de projets. Alors on adresse ces sujets de fraude d'une façon très forte, très déterminée, mais c'est moins d'un pour cent. Et la plupart des projets, ils sont des projets pour les petites et moyennes entreprises, des projets que les Français connaissent très bien. C'est le FEDER, c'est le fonds de social que vous venez de démontrer. Et maintenant, il y a déjà dans le terrain une possibilité qui a été utilisée aussi par la France pour utiliser les fonds qui étaient encore disponibles la présente période de programmation pour appuyer en termes exceptionnels presque tout ce que les États voulaient, et la France a reprogrammé très avec beaucoup d'intensité des fonds qui étaient disponibles encore au niveau du FEDER et du Fonds social pour acheter les masques, comme tous les autres pays, des ventilateurs, pour appuyer le travail à temps partiel, pour appuyer les petites et moyennes entreprises. Alors, pour faire tout ce qui était considéré d'émergence et de réponse. Et ça va continuer avec une transition vers une progressive normalisation avec un fonds qui s'appelle REACT et qui ajoute au fonds structurel que vous connaissez bien et qui vont continuer entre 2021 et 2027.
Elisa Ferreira, le dernier sommet européen a renforcé les ambitions climatiques européennes. On rehausse les engagements pris il y a 5 ans, puisque au lieu d'une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 90, on est maintenant à une ambition de 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Les Polonais ont bloqué tard dans la nuit sur cette question avant de céder. C'est un pays qui marche beaucoup au charbon. Ça va leur coûter très cher de rehausser leurs ambitions. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme garantie pour être aidés sur ce plan ?
Alors, ils partagent. Je comprends qu'un pays comme la Pologne, quand on parle de 55% de réduction, ça c'est pour quelques pays qui dépendent, comme vous l'avez dit, beaucoup de technologies qui pèsent beaucoup sur le climat. C'est un effort très très fort. Et c'est à cause de ça aussi que dans les fonds qui sont nouveaux, nous avons créé, proposé, et la législation est déjà finie aussi, il y a un fonds spécifique pour aider les régions, et je parle des régions comme la Silésie en Pologne, ou le Nord, Nord, en France, ou les Bouches-du-Rhône, il y a des régions où il y a une concentration de d'émissions atmosphériques qui sont vraiment très très fortes, et selon le niveau des pays, ces pays vont pouvoir bénéficier d'un fonds spécifique pour aider à la transition. Quand on fait un changement en termes technologiques, quand on a une adaptation pour être plus en conformité avec les objectifs d'environnement, il y a des coûts, souvent des coûts de caractère social et de caractère régional, parce qu'il y a des fermetures de certaines activités. Alors, il y a maintenant un fonds qui n'est pas un fonds disponible pour toutes les régions, mais pour ces régions. Et on est en train de finaliser les discussions avec la France pour savoir si vraiment sont ces régions que la Commission a proposées et celles sur lesquelles on va intervenir. Et pour ça, on a ce fonds de transition juste qui est une et qui peut être renforcé avec des transferts de fonds régionaux, de fédères et de fonds sociaux, précisément pour réduire l'impact sur les territoires, sur les travailleurs de ces zones-là, d'une transition climatique. Alors, que pour certains pays et en particulier pour certaines régions est vraiment dure.
Alors, autre grand dossier de ce sommet et du week-end d'ailleurs, le Brexit, on se dirige vers le pire des scénarios vis-à-vis des Britanniques. Est-ce que d'ailleurs le cadre budgétaire tel qu'il vient d'être adopté prend en compte le coût très élevé d'un Brexit sans accord ?
Oui, d'une certaine façon, vous avez dans tous les instruments qu'on a prévus et qui seront opérationnels, j'espère, dans la prochaine année, le premier printemps de la prochaine année, ils seront tous disponibles. Les fonds sont dirigés vers les situations, les secteurs, les gens et les régions les plus affectées par la dynamique économique. Et alors, je commence par répondre que aussi les régions plus affectées par le Brexit, elles seront, j'espère, plus renforcées en termes soit de REACT, soit des fonds structurels. Et ça, c'est quelque chose que les pays sont très attentifs, je suis sûre. Mais il y a aussi un volet spécial de 5 milliards d'euros qui sont maintenant, nous à la Commission, on travaille sur la distribution, les critères de distribution, et qui sont précisément destinés à aider les régions qui seront directement ou indirectement plus affectées par la rupture des relations traditionnelles, commerciales et autres avec le Royaume-Uni. Bien sûr qu'il y aura un impact majeur dans l'Irlande, ça va sans dire, mais ça ne veut pas dire de l'autre côté qu'il n'y a pas d'autres régions qui avaient une relation très très forte, et presque tous les pays qui avaient une relation commerciale traditionnelle avec l'Angleterre seront affectés. Alors, c'est sur ça on travaille, ça sera très très vite disponible, quels sont les critères selon lesquels ces impacts seront réduits aussi au minimum, mais ils seront là, c'est vrai, parce Merci. Que c'était une option du Royaume-Uni. Et je crois que aussi le Royaume-Uni va souffrir un peu ou beaucoup même par cette rupture, et surtout avec si la rupture n'est pas gérée d'une façon avec beaucoup de soucis, avec beaucoup de détails.
Merci beaucoup Elisa Ferreira d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir suivis. Restez sur nos deux antennes France 24 RFI pour un prochain journal. Un entretien à réécouter sur notre site www.rfi.fr dans les podcasts, émissions, Ici l'Europe.